Chroniques du vivant par Corinne et André.
La disparition des amphibiens, une catastrophe silencieuse avec l'association Kermit. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été ressourçant malgré les épisodes caniculaires qui l'ont jalonné et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée, pour partager notre émerveillement devant la beauté du vivant. Cette année, j'ai le plaisir d'animer ces chroniques avec André, ancienne collègue de la LPO, à grand renfort d'interviews de divers acteurs de terrain qui œuvrent au respect et à la protection de la biodiversité et de l'environnement. Mais il y aura aussi une autre nouveauté. André ?
Oui, ce sera ce qu'on a appelé une virgule, c'est-à-dire quelques minutes sur des points particuliers qui concernent des animaux souvent méconnus, des petits insectes ou des choses comme ça, et qui sera très court, mais qu'on va essayer de faire très pointu.
André est engagé aussi dans différentes associations, tu veux en dire deux mots ?
Tout à fait. Alors, je suis à Terre de Liens. Je suis adhérente à Génération Future et à la LPO aussi, Héros. Voilà.
Alors, qui accueillons-nous aujourd'hui ? Je te laisse présenter.
Kermit, avec une association active sur le Larzac. Et aujourd'hui, on a Gilles et Louis, qui sont deux responsables.
Et naturalistes, je pense.
Oui, bonjour. Oui, on peut dire comme ça. Pour moi, c'est compliqué parce que c'est pas formalisé par des diplômes, mais depuis le temps que je traîne sur le terrain à observer, c'est les gens qui disent que je suis naturaliste. Alors, ma foi, je l'ai accepté.
On va dire au moins écologue, c'est-à-dire qui étudie l'environnement, même si effectivement, toi, t'as pas forcément de diplôme, mais bon. On a eu des formations sur le terrain, on va dire, qui nous permettent d'avoir aujourd'hui quelques connaissances sur à peu près toute la faune et la flore qu'on peut rencontrer dans le secteur, donc dans l'Hérault.
Oui. Ce qu'on peut dire pour vous, c'est que vous n'êtes pas hors sol, quoi. Comme vous êtes dedans.
Non, on n'est pas très hors sol, non. On est plutôt ancré dans le sol.
Et voilà.
Et dans la mare, peut-être aussi. êtes passionné d'amphibiens.
Oui, passionné, alors pour moi, passionné depuis toujours, depuis tout petit. Si bien que l'association Kermit, on l'a créée autour de ces amphibiens et des reptiles, parce qu'un va pas sans l'autre. Donc ça remonte aux années 90. Depuis, on s'est élargi, on parle beaucoup plus de tous les animaux de la nature. En général aujourd'hui, mais on a quand même un attachement assez profond pour nos pauvres amphibiens.
Les pauvres, oui. Ça veut dire qu'ils sont mal en point, c'est ça ?
Ça veut dire qu'ils sont malheureusement mal en point. Alors ça va pas être une émission très optimiste parce que le sujet là est assez grave pour moi. Les amphibiens, tout le monde constate qu'ils sont en train de nous quitter petit à petit.
Ce point, nous quitter ?
Ah oui, pour certaines espèces, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est en train. Et là, je ne parle pas uniquement de la région ou du pays. Je parle de la planète. Les amphibiens disparaissent partout sur la planète. À part quelques espèces opportunistes qui sont en train de s'étendre avec des conséquences, d'ailleurs, pas toujours faciles. Mais effectivement, on a beaucoup de raréfaction, au moins, des espèces. Et ce, d'une façon très, très rapide.
On peut parler d'effondrement, alors ?
On peut parler d'effondrement, oui, malheureusement.
D'accord, c'est à ce stade.
Et parler du rôle des batraciens, pourquoi ils sont si méconnus ? Est-ce qu'on sait à quoi ils servent, entre guillemets ? Quel est leur rôle dans la nature ?
Alors, chez Kermit, on n'a pas l'habitude de dire que les animaux servent à quelque chose.
Et oui, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets.
Oui, j'ai bien entendu. Oui, les animaux n'ont pas besoin de nous servir pour avoir le droit de partager cette planète.
Ah oui, surtout qu'ils étaient là bien avant nous.
Surtout qu'ils étaient là bien avant nous, bien avant nos ancêtres et même avant les dinosaures. Donc, c'est des animaux qui ont des lignées très, très longues. Et à quoi ils servent, on va le dire comme ça. Les amphibiens sont aujourd'hui ignorés par la plupart des gens, très peu étudiés, parce que c'est pas un animal très fun, quoi. C'est souvent on dit c'est froid et visqueux, gluant, pustuleux.
En ça fait, donne des boutons.
Voilà, ça donne des boutons, il ne faut pas les toucher. Sauf quand on les embrasse, peut-être ça se transforme en prince charmant.
Mais...
ça, j'ai pas essayé personnellement. Non, donc l'amphibien est en plus est nocturne, donc c'est vraiment des animaux qui, a priori, n'attirent pas les gens. Après, quand on les regarde de plus près, on s'aperçoit que ça peut être très joli. Notamment les yeux. Moi, je pense aux yeux de nos amphibiens locaux qui sont magnifiques, qui méritent vraiment qu'on les regarde de très
tout
près.
Tout à fait, oui.
Rien qu'avec une photo d'un œil d'amphibien, on peut déterminer l'espèce. Hein. Ils sont tellement différents un de l'autre. Et leur mode de vie, donc, qui correspond un peu à leur utilité, ce sont toujours des carnivores, essentiellement insectivores, donc ils vont manger des petits arthropodes, insectes, araignées, mille pattes.
Les moustiques.
Les moustiques notamment, oui, mais aussi des limaces, des escargots, donc tous ces trucs-là qu'on n'aime pas beaucoup souvent. Donc ils ont ce rôle-là de régulation de petits animaux. Et bien sûr, leur raréfaction va permettre à proliférer sur certaines espèces, les moustiques en l'occurrence, oui. Mmh. Oui, oui. Une mare sans tritons et sans crapauds grenouilles autour, c'est potentiellement une mare où il y aura plus de larves de moustiques et plus de moustiques adultes.
Et les amphibiens ne représentent pas que les grenouilles. Hein. Effectivement, il y a les tritons et il y a d'autres
voilà.
espèces encore.
Alors en fait, il y a trois grandes familles, dont deux en Europe. On va oublier la troisième. Il y a les urodèles et les anoures. Alors les anoures, anoures, ça veut dire sans queue. Donc c'est les animaux qui perdent leur queue après le stade larvaire et qui représentent donc chez nous les crapauds et les grenouilles. Et les urodèles, c'est ceux qui gardent une queue toute leur vie, qui vont avoir un aspect plus lézard, on va dire, alors que c'est pas du tout des lézards, c'est les tritons et les salamandres. Donc voilà, on a les deux grandes familles d'amphibiens locaux.
Et sont carnivores les deux
alors,
les espèces ?
Tous les amphibiens au stade adulte sont carnivores, partout dans le monde. Mmh. Au stade larvaire, les anoures sont en général végétariens. Donc les crapauds et les grenouilles sont végétariens, tritons et salamandres, c'est carnivore dès la naissance. D'où l'intérêt pour lutter contre les larves de moustiques.
Oui.
Parce que les larves d'amphibiens sont toujours dans l'eau. Et ben, un jeune triton qui s'ébat dans une mare ou dans un ruisseau va manger beaucoup de larves de moustiques.
Mais les têtards ne mangent pas les larves de moustiques.
Les têtards, eux, sont vraiment végétariens.
Oui,
ils vont
oui.
manger éventuellement des cadavres d'animaux, des trucs comme ça, mais ils ne vont pas chasser.
Mmh. Un petit point sur la respiration des grenouilles. Ça se fait par des branchies, des poumons, par la peau, je crois aussi.
Alors, que ce soit chez les anoures ou les urodèles, la larve a des branchies. Donc, comme un poisson, elle va respirer dans l'eau. Et petit à petit, ces branchies se résorbent alors que des poumons se développent. Mais il y a une autre respiration qui est la respiration cutanée, chose que nous ne savons pas faire, mais que les amphibiens font très bien, et notamment dans l'eau. Les amphibiens ont cette capacité à avoir une peau très fine qui peut absorber l'oxygène de l'eau, ce qui leur permet d'ailleurs, pour certaines espèces, d'hiberner au fond de l'eau. Plus l'eau est froide, plus il y a un taux d'oxygène élevé, et donc elles arrivent les grenouilles et les tritons arrivent à respirer sous l'eau tout l'hiver sans remonter à la surface, voire sous la glace.
Mmh. Et sur les chiffres, vous avez des idées de proportions de disparition sur le Larzac, qui est votre terrain d'étude ?
Alors, j'ai pas de chiffres exacts, j'ai juste des observations de maintenant une trentaine d'années. On peut dire qu'on est sur la rainette méridionale, par exemple, un animal très connu que tout le monde a déjà vu, hein, cette petite grenouille verte, la rainette méridionale. On a aujourd'hui des populations qui ont été divisées au moins par 100.
Par 100 ?
Ah oui, au moins. Ouais, c'est...
C'est
non, non,
énorme,
c'est,
oui.
c'est vraiment énorme. Et je vous parle de ça, allez, on va dire en 2010... entre 2010 et 2020, donc une dizaine d'années, on a eu des divisions par 100 comme ça. Sur la méridionale, mais sur d'autres amphibiens aussi. Hein. Même le crapaud commun est très touché. Et puis les espèces emblématiques comme le pélobate cultripède, qui est aujourd'hui un amphibien qu'on surveille de près parce qu'il a une petite aire de répartition. Et du coup, il nous indique vraiment l'état des amphibiens en général.
Et à quoi c'est dû cet effondrement ?
Alors, comme d'habitude, c'est multifactoriel. On a le problème qui cause la baisse de population de toute la faune et voire la flore, c'est le changement climatique. Le réchauffement actuel, bien entendu, ne fait pas de bien aux amphibiens. Hein, les sécheresses très longues et très, très puissantes, on sait bien que les amphibiens ont besoin d'humidité. C'est pas évident pour eux. Les changements de pratiques agricoles aussi leur font beaucoup de mal, avec le labour, les pesticides, les trucs comme ça. Là, on est général sur toutes les espèces, hein, en dehors des amphibiens. Oui. Et en plus, sur l'amphibien, on a de gros problèmes de maladies. Il y a plusieurs maladies qui deviennent un peu comme notre Covid, des pandémies mondiales, hein, avec des maladies qui n'étaient pas là et qui sont arrivées par divers biais. Alors les origines, c'est toujours compliqué, il y a toujours des théories qui s'opposent, des controverses. En l'occurrence, la maladie la plus répandue, c'est un champignon. J'ai noté le nom parce que je ne le retiens pas, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle la Batrachochytrium dendrobatidis.
Ah oui.
Ouais. Un beau nom pour une vilaine chose.
Voilà.
Oui.
Qui donne une maladie qu'on appelle la chytridiomycose. Donc cette maladie est une... Ce champignon, en fait, est un champignon qui est présent sur tous les continents, mais avec des variantes d'un continent à l'autre. Et jusque-là, les amphibiens étaient adaptés à ces champignons et ils en souffraient un peu comme nous d'une grippe, on va dire. Et avec les échanges commerciaux mondiaux, on a des souches... alors, en l'occurrence, celle-là proviendrait probablement d'Asie. Encore une fois, c'est un hasard, mais c'est comme ça. Et aurait été amenée en Europe ou en Amérique par le commerce, hein, soit le transport d'amphibiens pour la terrariophilie ou pour la gastronomie en France, hein, puisqu'on est des gros mangeurs de cuisses de grenouilles, et on est tellement des gros mangeurs de cuisses de grenouilles qu'on a pêché, attrapé des grenouilles en quantité jusqu'à les faire quasiment disparaître. Donc aujourd'hui, on va les chercher en Asie, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est. On a même introduit en France des grenouilles, mais on va y revenir un peu plus tard.
Il y a des élevages de grenouilles dans ces pays-là ?
Alors non, c'est toujours capturé dans la nature. Les grenouilles, notamment les grenouilles dites à cuisse, qui sont les grenouilles rousses ou les grenouilles vertes, sont des cannibales. Du coup, si vous faites un élevage intensif, vous allez mélanger des grosses et des petites obligatoirement, c'est difficile de les calibrer. Mmh. Et ce petit monde-là va s'auto-détruire gentiment en étant confiné en plus. Donc l'élevage de grenouilles est totalement impossible à grosse échelle. Du coup, on capture dans la nature, et quand il n'y en a plus dans un pays, ben on va taper dans le pays d'à côté, et on transporte ça avec les maladies qui vont avec.
Ah ouais, raconte-nous ça, c'est assez incroyable cette histoire des grenouilles. Peut-être on pourrait entendre... Vas-y, c'est les riz.
Alors, en France, on a le souci de la... Voilà, qu'on entend là, la grenouille rieuse. Alors, quand on entend ce son, on comprend de suite pourquoi on l'appelle grenouille rieuse.
Alors c'est derrière, c'est un grillon.
Elle ricane, ouais. Elle se moque de nous.
Elle ricane.
Alors, cette charmante grenouille rieuse, qui est originaire de l'Est de l'Europe, qui n'était pas du tout présente en France, donc, aurait été introduite, premièrement, sur le littoral méditerranéen, dans les années 70. Alors pourquoi on l'a introduite ? Parce qu'elle fait partie du grand groupe des grenouilles vertes, donc grenouilles consommables, et c'est la plus grosse de toutes en Europe. Donc qui dit grosse grenouille, dit grosse cuisse. Malheureusement, qui dit grosse cuisse et grosse grenouille, dit aussi grande bouche.
C'est l'histoire de la grenouille à grande bouche.
C'est tout à fait
exactement ça.
Il n'y en avait pas beaucoup par ici, mais maintenant il y en a. Alors, comme je vous ai dit, c'est une grenouille cannibale. Du coup, en fait, elle mange tout ce qui bouge devant elle et qui est plus petit qu'elle. Donc, quand notre grenouille rieuse, qui s'est très bien acclimatée dans nos régions, voire dans tout le territoire français aujourd'hui, non seulement elle va manger ses petits, mais ça, c'est pas très grave dans notre cas, mais en plus, elle va manger tous les autres anours. Dès qu'il y a un petit crapaud, une petite rainette qui vient sautiller devant elle, hop, elle le gobe, elle le mange. Et du coup, les autres grenouilles disparaissent à cause de ça. Et, cerise sur le gâteau, elle transporte ce fameux champignon dont on a parlé et contamine les autres espèces.
À ce propos du champignon, il y a des moyens de lutte contre un...
Alors, en laboratoire, il y a des moyens de lutte. Dans la nature, il n'y en a pas du tout. Et puis, qui va se préoccuper de protéger des grenouilles
Oui, surtout que les grenouilles rieuses, elles ont des grosses cuisses. Donc, il y a des gens que ça intéresse.
Raconte. Alors, il y a des gens que ça intéresse, effectivement. Je ne sais jamais s'il faut dire la chasse ou la pêche à la grenouille, c'est compliqué. Mais la capture des grenouilles, c'est une vieille tradition française, assez horrible d'ailleurs, hein, puisque on essaie de rentabiliser la chose, de faire le plus vite possible. Donc on ne va pas s'encombrer de grenouilles qui grouillent dans un sac. Du coup, les gens qui capturent des grenouilles en général les attrapent, arrachent les pattes arrière et jettent le reste du corps qui va agoniser pendant 2-3 jours. Voilà, sans scrupule.
Ouais, c'est comme les ailes de raie, ça, oui.
Voilà.
Quelle horreur.
Oui,
de quoi dégoûter les mangeurs de cuisses de grenouilles, mais peut-être qu'ils ne savent pas que
sûrement
les grenouilles agonisent pendant 2 ou 3 jours avec juste 2 pattes avant et plus du tout de pattes arrière.
Ouais.
Donc, impossibilité de se déplacer.
Impossibilité de se déplacer, d'échapper aux prédateurs, des hémorragies, des douleurs sûrement intolérables. Enfin, bon.
Oui.
Effectivement, si les gens étaient un peu plus au courant de ça, peut-être qu'on aurait moins d'amateurs de cuisses de grenouilles.
Oui,
d'autant
bah...
plus qu'il faut le reconnaître, et moi j'ai goûté quand même pour pas mourir idiot. Ça pas, à part le beurre d'escargot qu'on met autour, prenez des filets de poulet et mettez la même sauce autour et vous aurez exactement la même sensation et vous n'aurez pas à enlever les os en plus. C'est merveilleux.
Tu parlais aussi dans les causes de l'effondrement des pesticides. C'est l'agriculture d'aujourd'hui qui pollue beaucoup les sols. Donc je suppose que tout ça s'est absorbé aussi par la peau des batraciens et enfin des amphibiens. Et...
Alors justement, oui, les amphibiens, contrairement aux reptiles, on parlait tout à l'heure du triton qui ressemble au lézard. Le lézard a une carapace, entre guillemets, hein, c'est pas du tout une carapace, mais une peau très dure avec ses écailles qui le protège. Les oiseaux ont des plumes, les mammifères ont des poils, et ben, les amphibiens, ils ont rien. Ils ont la peau, c'est tout. Et en plus, ils ont un mucus dessus qui leur permet de garder leur peau humide. Et du coup, ils sont très sensibles à tout ce qui est maladie. Alors, leur mucus leur sert... aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on pourrait trouver des antibiotiques sur les peaux d'amphibiens. Maintenant qu'ils disparaissent, on s'aperçoit que... Ah, on pourrait s'en servir en médecine.
Dommage, il n'y en a plus.
Dommage, il n'y en a plus. Ouais.
Trop tard.
Donc, les amphibiens sécrètent effectivement beaucoup de protection. Quand on a la peau nue et qu'on vit dans un milieu humide, il vaut mieux se protéger des mycoses et des bactéries. Mais ça ne suffit pas, malheureusement, pour beaucoup de choses. Et les pesticides, notamment, sont très facilement absorbés par cette peau. Et si ça les tue pas, ça détruit leur protection contre les maladies.
Ils ont une peau perméable, en fait.
Ils ont une peau très perméable. Je vous ai dit tout à l'heure, ils respirent en partie par la peau. Et ils absorbent énormément de choses par la peau, ce qui est, d'un milieu sain, un atout, mais d'un milieu pollué, c'est une catastrophe. Mmh. On a des cas aussi on a étudié ça aux États-Unis, des grenouilles, une population de grenouilles qui vivait dans un lotissement, sur des petits caniveaux, des petites réserves d'eau autour de lotissements, on s'est aperçu qu'il n'y avait que des mâles. Et après analyse, on s'est aperçu que la plupart, ce n'étaient pas des mâles, c'était des femelles qui avaient toutes les caractéristiques des mâles. Et ça, c'est lié aux hormones
et aux perturbateurs endocriniens.
Tout à fait. Et en fait, ça vient de la pilule, la pilule abortive qui se retrouve dans les urines, donc dans la nature. Et quand les amphibiens, donc là on parle du tétard et de l'œuf, hein, quand l'œuf et le tétard sont soumis à ces perturbateurs, ben, on a des modifications de sexe comme ça. Et bien entendu, ces faux mâles sont totalement stériles.
Et oui.
Donc voilà, des animaux très sensibles à nos pollutions actuelles. Mais je le répète, ça explique pas tout, hein, parce que nous, sur le Larzac, moi je me plais à dire qu'on a beaucoup d'élevage, et on a soit des éleveurs bio, soit des éleveurs qui n'utilisent pas de pesticides. Donc ils sont pas bio, mais ça change pas grand-chose. Du coup, ça vient pas des pesticides, mais il y a tous les autres éléments.
Le comblement des mares et des choses comme ça aussi.
Alors la disparition des mares est un problème crucial aujourd'hui. Je pense que c'est la clé aujourd'hui si on veut faire quelque chose pour les batraciens, vraiment à la portée de tout le monde, c'est de respecter les mares, ne pas les polluer bien sûr, ne pas les combler.
Ne pas y jeter n'importe quoi dedans.
Ne pas introduire d'espèces exotiques, ça on le dira jamais assez. Et pourquoi pas en créer une chez soi. C'est pas compliqué de créer une mare et ça apporte vraiment que du bonheur.
Oui, c'est vrai. Et toi, Louis, quand tu fais les sorties, tu as remarqué quoi ? La vie autour des mares qui subsiste ou
Alors, la vie, notamment des amphibiens, mais en fait de quasiment toutes les espèces, et c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, partout est en train de diminuer sur l'ensemble de la planète, en fait. Ces dernières années, on a effectivement vu une baisse très forte de population d'énormément d'espèces de batraciens, excepté la grenouille rieuse qui elle est en pleine expansion en 10 ans entre 2010 et 2020 on a vu la grenouille rieuse arriver sur le Larzac, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout présente avant 2010 et en 2020 elle était présente dans on va dire 95% des mares du plateau. Donc c'est quand même une expansion qui est beaucoup trop rapide pour que la faune puisse s'adapter en fait. Et les espèces d'amphibiens ne connaissent pas ce nouveau prédateur, ne s'en méfient pas et du coup se font manger assez facilement. Et effectivement, comme tu le disais, il y a ce problème de champignons qui se transmet de mare en mare, du coup, à des vitesses assez affolantes. Donc on a effectivement des populations qui sont en chute libre et c'est catastrophique.
Et comment on explique que les grenouilles envahissent peu à peu ?
Alors les amphibiens à la base ça vient du mot amphibie, donc qui vit dans deux milieux, le tétard est effectivement 100% aquatique comme la larve de triton, les larves de salamandre. Par contre l'adulte lui ne va dans l'eau que pour se reproduire pour beaucoup d'espèces et survit très bien en milieu sec, même si pas indéfiniment. Donc les adultes vont passer de mare en mare une fois que leur mare de naissance est saturée, on va dire, en population. S'ils n'ont plus assez de proies, ils vont essayer d'aller trouver une autre mare ailleurs. Et une fois qu'un mâle a trouvé une autre mare ailleurs, il va commencer à chanter pour attirer les femelles.
D'accord.
Et donc ça peut aller très très vite. Et vu que sur le Larzac, on a des mares assez proches, c'est un milieu qui n'a pas de rivière, mais qui est quand même assez bien pourvu en eau grâce aux mares.
Ou la Vogne.
Ou la Vogne, oui, notamment. En fait, quasiment d'une mare à l'autre, on peut entendre le mâle chanteur de la mare d'à côté. Donc
D'accord, et ça veut dire que les grenouilles sentent, entre guillemets, quand il y a de l'eau pas très loin, elles y vont ?
Non, en fait, elles vont tout droit dans une direction, et si elles trouvent une mare, tant mieux, et si elles n'en trouvent pas, elles font partie des pertes.
D'accord.
Et ces grenouilles rieuses, elles s'accouplent avec des grenouilles normales aussi, ou entre elles ?
Les grenouilles rieuses, en fait, c'est un groupe d'espèces, il y a 5 ou 6 espèces présentes dans le sud de la France. Et elles vont s'hybrider entre elles, mais elles ne vont pas pouvoir s'hybrider avec les autres espèces, les autres crapauds. Sont beaucoup trop éloignés, génétiquement parlant, pour pouvoir...
Ils se contentent de les manger, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est assez impressionnant, la multiplication exponentielle, quoi.
Après, les amphibiens ont trouvé cette stratégie de dire que, eux, leurs enfants, les bébés, seront très vite mangés par des prédateurs. Donc, autant en faire énormément pour qu'il y en ait au moins un qui ait une chance de survie et d'arriver à l'âge adulte et à l'âge de se reproduire. Il faut savoir que, notamment chez les crapauds, une ponte, c'est 300-400 œufs. Donc par ponte, par an, par femelle. Les grenouilles, c'est un peu moins, mais on est quand même dans la centaine d'œufs par femelle.
Oui, c'est souvent des grosses quantités, oui.
Assez facilement. Donc vous avez une nouvelle espèce qui arrive dans un milieu qui a quelques prédateurs qui s'adaptent, mais pas tous, qui a une profusion de proies qui s'en méfie pas et qui, oui, du coup peut proliférer énormément. En plus, on l'a dit, hein, c'est la plus grosse, donc une fois qu'elle est adulte, la majorité des prédateurs des autres amphibiens ne peuvent pas y toucher parce qu'elle est trop grosse. Et donc c'est des reproductions exponentielles qui vont multiplier les populations par...
Elle a des prédateurs, cette grenouille ?
Alors, comme tous les amphibiens, il y a énormément de prédateurs. C'est notamment pour ça qu'ils ont choisi cette stratégie de faire énormément d'œufs. On a quelques serpents qui vont aller les manger directement dans l'eau. On a le héron, notamment, d'autres oiseaux comme le grèbe castagneux. Et une fois à l'âge adulte et assez éloigné de la mare, on a quasiment tous les mammifères carnivores, en fait, qui vont pouvoir...
Les renards mangent les grenouilles ?
Les renards peuvent en manger s'ils
peuvent en manger, c'est pas leur aliment favori, mais...
Renard n'est pas difficile. Renard n'est pas difficile.
Par contre, un animal qui mangera très volontiers tous les amphibiens qu'il trouvera, c'est le fameux sanglier, omniprésent aujourd'hui,
oui,
et qui est à la base de la raréfaction d'énormément d'espèces, notamment dans les reptiles. Les serpents prennent une claque quand le sanglier est trop prolifique.
Les sangliers mangent les serpents.
Les sangliers mangent tout.
Je l'ignorais, oui.
Sanglier est omnivore.
C'est qu'ils mangent tout.
Ils se font pas piquer, ils ont pas... Non,
c'est pas assez rapide à la vipère.
D'accord. Wow. Bon. Eh bien, on va en venir à votre association. Alors, qu'est-ce que... Qui est optimiste, on va dire, quand même, si vous continuez.
Oui, il faut continuer, de toute façon. Si on s'arrête, le message qu'on a propagé jusqu'à aujourd'hui n'aura servi à rien. Non, nous, en termes d'action, pour le grand public, on essaye d'organiser des balades le plus souvent possible, on va dire. Ces derniers étés, c'était un peu compliqué de proposer des balades sur le Larzac, donc milieu assez aride, sans eau et sans arbres, en plein milieu d'après-midi, on se sentait pas de le faire.
Caniculaire,
ouais, oui. Par 40 degrés, on va éviter. Mais par contre, au printemps, on essaye de faire des petites randonnées sur le terrain où on explique en général, on trouve des insectes et des arachnides parce que les autres animaux ont fui en entendant un groupe arriver. Mais si on a la chance de voir un lézard ou de surprendre un renard qui mulotte, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver.
J'ai lu sur votre site que vous avez installé 4 observatoires de la faune sauvage.
Ouais. Alors là, on est plus sur le mammifère, les oiseaux.
Oui.
Oui, on a eu cette opportunité d'avoir un financement pour ça et on a construit donc 4 observatoires disséminés sur le Larzac et... Oui, essentiellement sur le Larzac d'ailleurs. En fait, il y a 3 observatoires construits et un virtuel autour du Salagou. Construire autour du Salagou, c'est compliqué. Donc, on s'est rabattu sur quelque chose de virtuel qu'on trouve sur notre site. Et 3 observatoires sur des milieux différents, un forestier et 2 beaucoup plus Larzac classique, on va dire. Là, le but, c'est de se poser et d'observer essentiellement en soirée les passages d'oiseaux et la sortie des mammifères, chevreuils, renards.
C'est ouvert à tous individuellement ou en accompagnement?
Non, c'est ouvert à tous. C'est juste... c'est indiqué sur place. Et vous pouvez trouver tous les renseignements pour vous y rendre sur notre site de l'association Kermit.
Et vous avez une action bientôt, je crois, pour une mare.
Alors là, on va faire une chose qu'on n'aime pas beaucoup, mais qu'on fait malheureusement bien trop souvent, c'est qu'on va vider une lavogne. Alors, pourquoi vider une lavogne? Ou lavagne, je ne suis pas chauvin sur le mot. Le tout, c'est de comprendre. Pour l'histoire de celle-ci, on a été amené à faire une animation scolaire sur cette mare au mois de juin et on s'est aperçu, quand on a fait le repérage, qu'il y avait 2 espèces introduites et 2 espèces classées invasives. Alors, classée invasive, petite explication quand même, la grenouille rieuse, par exemple, n'est pas classée invasive, pourtant elle le mériterait. On classe, en fait, c'est un a priori. On dit cette espèce-là est invasive ou celle-là n'est pas invasive. C'est toujours une espèce étrangère, exogène, on dit.
Oui, si on veut parler en termes scientifiques, espèce exogène envahissante.
Mmh. Ouais. Donc une espèce qui vient d'ailleurs, qui n'est pas venue toute seule, qui a été introduite par l'homme, et qui pose problème. Voilà pourquoi elle est invasive. Donc on est exactement dans le schéma de la grenouille rieuse, mais comme la grenouille rieuse se consomme, et en plus elle ressemble beaucoup à des espèces qui, elles, sont protégées, c'est compliqué de la classer invasive. Là, en l'occurrence, donc, on a découvert ces deux espèces. La première, c'est un poisson. En l'occurrence, les gambusies. Gambusies, c'est un poisson proche, pour les aquariophiles, proche du guppy, mais sans toutes ses beautés, ses couleurs. C'est un poisson qui vient d'Amérique centrale, qui a été introduit dans les années 70, encore les années 70, on a fait beaucoup d'erreurs dans les années 70, pour lutter contre les moustiques. Donc en Camargue, dans un premier temps, aujourd'hui il est présent sur tout le territoire français. Et non seulement il n'est pas très friand de moustiques, mais en plus il a tendance à manger tout ce qui passe devant lui, donc c'est un problème, et en plus il est increvable. Donc ce poisson a été introduit, et on a une plante aussi qui s'appelle la lagarosiphon. Alors les adeptes du lac du Salagou la connaissent bien, hein, c'est cette plante qui a été introduite elle aussi il y a quelques années et qui a beaucoup proliféré dans le lac. Alors à mon avis, dans le lac, elle ne pose pas de problème insurmontable. Maintenant, sur une mare, on l'a vu faire, puisqu'elle a été introduite dans pas mal d'autres mares. Et au bout de quelques années, ben, y a plus que cette plante et y a plus de place pour nager pour les animaux aquatiques. Donc ça devient compliqué.
Mais elle est introduite comment, cette herbe ?
Alors là...
J'imagine que ce n'est pas les gens qui viennent l'implanter là.
Ben, c'est une herbe qui se déplace très très peu, qui n'est pas présente sur la commune de Saint-Maurice-Navassel où est implantée la mare. Et comme par hasard, y a du gambusie et la lagarosiphon qui a été importée. Et c'est deux espèces qu'on retrouve au Salagou, donc l'hypothèse la plus probable, ce serait quelqu'un qui est venu au Salagou avec un seau, qui a pris des gambusies pour éviter qu'il y ait des moustiques dans la mare, qui est allé jeter son seau et il y a un bout de la plante qui s'est retrouvé avec, ou alors c'était intentionnel, de toute façon on ne saura jamais.
Oui.
Sauf si la personne vient nous dire pourquoi elle a fait ce geste-là, mais...
En tout cas, ce qui est sûr à 99%, c'est que c'est un humain qui a amené cette plante et ce poisson.
Mais là, du coup, vous allez détruire toute la biodiversité qu'il y a dans la mare.
Alors, c'est pour ça qu'on n'aime pas faire ces vidanges-là. Quand on découvre ce cas-là, c'est toujours un peu possible, mais on détruit quand même. On a deux solutions. Soit on laisse faire et on sait ce que ça va donner. Une disparition quasi totale de toute la faune et la flore au détriment de ces deux espèces-là. Soit on intervient et on essaie d'intervenir au moment opportun. En l'occurrence, les amphibiens sont plus présents, à part la rieuse, sont plus présents dans les mares à cette saison-là. Et puis l'herbier va pouvoir se reconstituer. Donc on fait ça à des périodes bien définies, on fait ça le plus délicatement possible, on récupère un maximum d'animaux autochtones pour après les réintroduire. Mais c'est sûr que c'est un traumatisme pour la mare et c'est important de faire ça le moins possible, le moins souvent possible.
Mais c'est une question de survie aussi pour la mare, donc ça vaut la peine de le faire.
Si on le fait pas, la mare est foutue.
Voilà, c'est ça. Donc
biologiquement,
oui, oui.
Donc on n'a pas trop le choix non plus.
Après, il faut garder à l'idée aussi que les espèces qu'on a sur le Larzac sont adaptées à des milieux qui sèchent relativement souvent les étés,
oui.
Et qui, dans tous les cas...
Ouais, aussi bien les animaux que les plantes.
Oui. Donc il y a déjà une épuration un peu naturelle.
C'est ça. Donc un stress moindre, ça c'est une mare qui n'a pas séché cet été, sinon les poissons seraient morts, mais on va l'aider à sécher, entre guillemets.
On va arriver au bout de l'émission, parce que le temps passe vite. J'aurais bien aimé parler encore du chemin des arbres, de tout ça, mais bon, je pense que vous pouvez donner les références de votre site sur Internet pour que les auditeurs puissent venir voir. Donc c'est l'association Kermit, K-E-R-M-I-T.
Voilà, vous tapez association Kermit et en général on est assez bien placé. N'oubliez pas association, parce qu'avec Kermit, on tombe sur beaucoup de choses. Mais l'association Kermit, il n'y en a qu'une, c'est la nôtre. Donc, site internet, page Facebook, avec beaucoup d'actualités sur la page Facebook, notamment énormément de films faits avec des caméras
films.
Automatiques pour voir, là on est plus sur les mammifères, et pour voir évoluer ces animaux-là. Et puis vous avez tous les renseignements sur le site pour aller sur nos postes d'observation ou pour en savoir un peu plus sur nos actions.
Des activités.
Il y a un agenda des activités, bien entendu, alors qui à cette saison n'est pas très rempli parce qu'on est un peu sur la fin d'activités. Là. Mais dès le printemps, ça recommence. Et ouais. En général, on attaque l'année justement avec des sorties amphibiens.
Et vous êtes situé où ?
Nous sommes situés sur le sud du Larzac, à la Vaquerie précisément. Donc beaucoup d'activités autour de ce lieu, mais on descend aussi dans la plaine. Hein. On n'est pas, pas bloqué là-haut.
Bon, ben, je vous remercie. André,
merci
tu
beaucoup.
Dire quelque chose ?
Je pense que Gilles est. Et vous voulez parler aussi des sauterelles et des criquets, mais ce sera peut-être pour une autre fois.
Une prochaine fois,
avec plaisir.
Voilà.
Oui, on fera peut-être un autre sujet là-dessus.
Oui.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci pour l'invitation et puis une bonne journée.
C'était indispensable, mais bon, on verra.
Merci. Bonne journée aussi.
Chronique du vivant par Corinne et André.